Nous avons eu hier les témoignages d'ATD Quart-Monde, témoignages qui ne nous ont pas laissés indifférents les uns et les autres. Nous poursuivons ces témoignages sur un autre mode aujourd'hui, sur un mode très différent, avec une association que forcément vous connaissez, Enfance et Partage, dont nous savons combien elle aussi, cette association, travaille au plus près des familles, au plus près des enfants qui vivent ce sentiment de honte. La restauration de la dignité du citoyen est-elle possible et par quelle démarche passe-t-elle? C'est cette question que nous avons adressée à Madame Colombel, présidente d'Enfance et Partage. Je vous en prie, Madame.
Merci. Merci au CNDPF d'avoir fait appel à l'association. Alors, quand Madame Tailleux nous a sollicité pour intervenir dans votre forum, je me suis dit, l'atteinte à la dignité, en fait, je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais commencer? Eh bien, j'ai regardé le dictionnaire. Et je vais vous donner la définition du Larousse. Respect que mérite quelqu'un ou quelque chose. Attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité, sentiment que quelqu'un a de sa valeur. Fonction éminente, distinction honorifique. Et puis, comme je suis quelqu'un de à la page, j'ai regardé Internet et j'ai eu différentes notions de la dignité humaine. La notion de dignité humaine possède des dimensions multiples, philosophiques, religieuses, juridiques. La dignité au sens classique n'avait rien à voir avec la notion contemporaine. Elle était liée à l'exercice d'une charge ou d'un office public, un sens que l'on retrouve dans dignitaire. Ce sens classique, aristocratique et inégalitaire s'oppose aux valeurs démocratiques qui font aujourd'hui consensus. Il existe une autre notion, une autre définition qui est utilisée en particulier dans le champ de la bioéthique. Elle fait référence à une qualité qui serait liée à l'essence même de tout être humain, ce qui expliquerait qu'elle soit la même pour tous et qu'elle n'admette pas de degré. Alors, j'ai encore une notion qui dit que ça signifie que toute personne mérite un respect inconditionnel, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou l'origine ethnique de l'individu en question. Et puis comme Enfance et Partage quand même est très tourné vers tout ce qui est juridique, j'ai trouvé une réflexion d'une juriste qui est professeure de droit public à l'université de Rennes et qui s'appelle Anne-Marie Lepourtier. Elle parle de notion fourre-tout. Dans une interview du Figaro en mai 2008, elle dit « La dignité constitue aujourd'hui la menace la plus directe contre la philosophie des Lumières et l'idée républicaine, l'arme fatale contre nos libertés. Ériger cette notion philosophique et morale, éminemment subjective et relative, en normes juridiques, est une folie. On voit déjà plusieurs années que c'est au nom de la dignité des individus et des groupes que des militants narcissiques et hystériques ont obtenu la multiplication des incriminations pénales et harcèlement moral et sexuel, de discrimination et propos sexistes, homophobes, handiphobes, aboutissant à un arsenal répressif menaçant, notamment les libertés d'expression et de la presse. C'est encore au nom de la dignité humaine qu'est revendiquée une euthanasie très active, et ce n'est pas non plus un hasard si les décisions juridictionnelles récentes les plus intellectuellement indigentes et tirées par les cheveux ont été rendues sur le fondement de cette notion fourre-tout et galvaudée. C'est vrai qu'elle n'y est pas allée de main morte. Hein. Alors je vais rester sur la notion juridique, le droit international, puisque c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que on trouve la notion de dignité de la personne humaine. Cette déclaration dit que tous les êtres humains possèdent une dignité inhérente et qu'ils naissent libres et égaux en droit et en dignité. Fabienne Quériot, ce matin, y a fait référence, et j'ai effectivement eu la même démarche qu'elle sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi sur la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc, dans cette charte, il y a quand même des articles qui sont très, très prégnants, puisque on a celui qui est relatif au droit à la vie, à l'intégrité de la personne et à l'interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains. En droit civil, mais il y a tout un article en droit civil sur la dignité humaine, c'est l'article 16. Et je vais vous donner les différents points sur lesquels le code fait référence. Contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c'est la Convention de New York de 1984, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Encore une Convention de New York en 1980 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On trouve une référence au Code du travail sur la lutte contre les discriminations, sur le harcèlement moral, sur les droits et notamment le droit à la dignité des personnes malades, sur la communication audiovisuelle, qui est libre, mais limitée par le respect de la dignité de la personne humaine, et sur l'autorité administrative, qui peut, par un arrêté motivé, interdire la tenue d'une manifestation sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégralité physique ou à la santé des participants. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a beaucoup interpellée, choquée, surprise. Un arrêt du Conseil d'État du 27 octobre 1995 dans l'affaire de Lancer de Nain, dans une commune, est célèbre pour avoir inclus la notion de dignité humaine en tant que composante de l'ordre public. Le Conseil d'État a en effet jugé que le maire, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, avait le droit d'interdire un spectacle de Lancer de Nain au motif de troubles à l'ordre public, et ce, même si le nain en question était volontaire et consentait à cette activité d'ordre commercial, vu que la dignité est censée être inaliénable. En effet, les juges ont considéré qu'un tel spectacle attentait à la dignité de la personne et que celle-ci faisait partie intégrante de l'ordre public, en sachant que le nain se faisait rémunérer. Et on arrive à la spécificité d'enfance et partage sur le droit pénal, des atteintes à la dignité de la personne, de la traite des êtres humains. Alors, je ne vous ai pas donné c'est écrit, d'accord, vous avez les articles. Du proxénétisme et des infractions qui en résultent, du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, de l'exploitation de la mendicité, des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. Alors vous avez vu que j'étais aussi administrateur ad hoc dans le département du Rhône, au tribunal correctionnel, au TGI de Villefranche-sur-Saône, qui se trouve à 30 km au nord de Lyon. Alors peut-être que je vais vous expliquer déjà ce que c'est qu'un administrateur ad hoc. Un administrateur ad hoc est désigné par le magistrat quand il y a conflit d'intérêts avec les parents ou défaillance. Alors, il peut être désigné soit par le parquet ou le juge d'instruction ou pénal, soit par le juge des enfants en assistance éducative, soit par le juge des tutelles mineures pour les contestations de paternité. L'administrateur ad hoc, en fait, il représente l'enfant dans la procédure judiciaire. Comme ce sont ses parents qui sont mis en cause, le législateur a pensé que plus personne ne pouvait le représenter, cet enfant. dans la procédure. Donc il fallait nommer quelqu'un, désigner quelqu'un pour qu'il le représente dans cette procédure. Le travail d'administrateur ad hoc, c'est un travail permet de connaître tous les travailleurs sociaux de l'ASE, mais aussi de tout ce qui est sauvegarde de l'enfance. Et voilà, je suis très en lien avec toutes ces personnes-là qui sont les référents de ces enfants qui sont placés ou non, parce que parfois les enfants ne sont pas toujours placés. Et parfois, je travaille avec eux sur la situation de ces enfants pour pouvoir avoir une idée de la situation familiale, parce que certes, je représente le mineur, mais j'ai besoin de connaître le contexte dans lequel il a vécu avant d'être placé. Voilà, je travaille avec un avocat qui représente l'administrateur ad hoc. Donc là, c'est très technique. Quand on est au pénal, qu'est-ce qu'on va demander comme dommage et intérêt? En assistance éducative, c'est comment est-ce qu'on voit la situation de l'enfant? Est-ce qu'on est en accord avec les travailleurs sociaux du conseil départemental, ou bien est-ce qu'on a une vision différente? C'est voir les autres professionnels qui sont autour de cet enfant, le médecin, le psychologue, essentiellement tous les psychologues des CMP qui ont en charge ces enfants, ou qui sont au service des maisons d'enfants quand les enfants sont placés dans des MEC. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais un rapport aussi au juge des enfants, systématiquement, à chaque audience en assistance éducative, dans lequel il me demande ma position. Au pénal, j'ai pris l'habitude aussi c'est pas forcément obligatoire, mais j'ai pris l'habitude de faire un rapport, parce que ça me permet d'avoir une contenance au tribunal, puisque c'est moi qui parle à la place de l'enfant, et surtout de ne pas oublier certaines choses à dire au tribunal correctionnel. Voilà. Voilà à peu près tout ce que je fais pour en tant que administrateur ad hoc. Alors je vais vous donner des situations d'enfants que j'ai suivies en tant qu'administrateur ad hoc. Cette honte qu'ils ont tous, elle peut se traduire de différentes manières. La culpabilité, l'incompréhension, les pleurs, les colères, les silences, les bégaiements, les sourires figés, les tremblements, les réactions épidermiques, les peurs. Donc je vais vous parler de tous ces enfants. Dylan, il fait partie d'une fratrie de quatre enfants. C'est un petit peu compliqué, sa sœur aînée et sa demi-sœur, et sa petite sœur et son petit frère sont aussi ses demi-sœurs et frères. Dylan, il a honte parce que sa sœur aînée, donc sa demi-sœur, Priscilla, a dénoncé les faits de viol de son beau-père, qui est aussi le beau-père de Dylan. À cause de Priscilla, toute la famille est placée. Dylan, il en veut à sa sœur. Il en veut à sa sœur parce que ce beau-père, lui, il l'avait mis sur un piédestal. Et il remplaçait le père qu'il ne connaît pas. C'était un père de substitution. Donc il en veut énormément à Priscilla, et il est incapable, au moment des audiences en assistance éducative, de ne pas pouvoir le reprocher. Mais il en veut aussi à sa mère, à cette mère qui fait des enfants avec des hommes différents et qui sont tous placés et qui ne bougent pas, qui ne vient pas les voir en visite médiatisée, qui ne vient pas aux audiences, à cette mère qui se fout d'eux. Alors Dylan, maintenant il est majeur, il est heureux d'être majeur, et eh bien il retourne voir son beau-père qui a purgé sa peine, et il le voit régulièrement parce que pour lui, même s'il a violé sa sœur, c'est pas grave, Lui, c'est son père de substitution. Et alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que Dylan, il a été violé par son oncle maternel. Comment est-ce que fait-il que Dylan ne comprenne pas la position de Priscilla? Alors, Priscilla, elle, sa sœur, elle est... Lui, il était froid, posé. Elle partait dans tous les sens. Elle avait des débordements. Elle pleurait sans cesse. Dans toutes les audiences, elle partait en claquant la porte. Elle allait se cacher dans les toilettes. Et elle a honte. Elle a honte parce qu'elle a fait exploser la fratrie et qu'elle sait qu'ils leur en veulent tous. Ils lui en veulent tous. Tous ses frères et sœurs lui en veulent à Priscilla. Et elle essaye de recoller les morceaux en visite médiatisée, mais ça marche pas. Alors finalement, elle a fait des fugues. Elle a été placée, elle a fait des fugues. Et qui est-ce qu'elle allait retrouver pendant ces fugues? Sa mère. Sa mère qui, pourtant, n'a pas su la protéger, alors qu'elle a été victime du compagnon de sa mère. Et puis finalement, elle a fini par partir définitivement. Et j'ai appris par la suite qu'elle attendait une petite fille et qu'elle s'est retrouvée donc avec une petite fille à l'âge de 17 ans et demi. Toutes ces adolescentes, je dois dire que, je ne veux pas dire qu'elles finissent comme ça toutes, mais elles ont beaucoup de difficultés à se poser et elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de fugues. Et elles rencontrent des jeunes qui leur ressemblent d'ailleurs, qui sont eux-mêmes parfois suivis par la PJJ. Et bien, ils se retrouvent, ils se ressemblent, ils se racontent et ils font des enfants. Alors Camille, adolescente, elle est coupable d'avoir dénoncé son père pour agression sexuelle. Sa mère ne la croit pas, elle l'accuse d'aguicheuse. Mais surtout, Camille, elle se sent coupable du suicide de son père en prison. Ses frères, ses sœurs, tout le monde lui en veut à Camille. À cause d'elle, le père n'est plus là, il est même mort, et ils sont tous placés. Mais il n'y a pas que les frères et les sœurs de Camille qui lui en veulent. Il y a aussi toute la famille qui lui en veut. Les grands-parents, bien évidemment, hein, les parents de monsieur, les oncles, les tantes, tout le monde lui en veut. Camille, elle est toute seule. Elle est toute seule et elle se scarifie, Camille. Elle se maquille à outrance. Elle s'habille de manière inadaptée. Elle a 14 ans, Camille. Elle a 14 ans. Mais le pire pour Camille, c'est qu'elle n'a pas été reconnue comme victime puisque l'action s'est éteinte avec le suicide de son père. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour Camille? Il faut lui expliquer que la justice l'avait reconnue comme victime, mais que du fait du suicide de son père, eh bien, on ne peut pas aller en audience, on peut pas, elle ne peut pas être indemnisée. Tout à l'heure, je parlais avec une de vos collègues sur les dommages et intérêts. Enfin, on n'a pas pu aller au bout de nos conversations, mais les dommages et intérêts que ses parents doivent verser aux mineurs sur lesquels ils les ont battus, violés, agressés, cette réparation monétaire, elle est indispensable pour ces victimes. C'est la reconnaissance, elle passe aussi par là. Et c'est le législateur qui en a décidé ainsi et qui a pensé que ces dommages et intérêts étaient importants pour ces mineures victimes. Alors Théo, il a honte de lui-même. Son père l'a violé et à cause de lui, il va faire de la prison, son père. Vous vous rendez compte? Théo, il se gratte constamment les bras jusqu'au sang. Douleur physique, douleur morale. Affirmer et réaffirmer à Théo que ce n'est pas lui qui est en cause. C'est son père qui est en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais qu'il lui a fait quelque chose de mal à lui, Théo. C'est lui la victime. Enzo, il a été battu par sa mère. Son corps est couvert de bleu, de plaies, de traces de ceinture, de coups de poing. Il ne veut surtout rien dire qui pourrait déplaire à sa mère, bien qu'il soit placé. Il n'ose pas dire au juge des enfants qu'il a peur de sa mère, qu'il ne veut pas être seul avec elle lors des visites accompagnées. Je suppose que vous savez tous ce que c'est que des visites accompagnées. C'est que les travailleurs sociaux accompagnent l'enfant dans un lieu neutre ou bien à domicile. et repartent et laissent l'enfant avec le parent et reviennent les chercher après une heure ou deux, selon ce qui a été décidé en assistance éducative. Et pour Enzo, c'était ça, en fait. Il avait été décidé qu'il y aurait des visites à domicile chez la maman, en visite accompagnée. Et là, ça a été terrible pour Enzo. Ça a été terrible. Le conseil départemental et moi-même avons fait appel de ce jugement. Et en cours d'appel, on a réussi à faire en sorte que Théo il n'aille pas chez sa mère en visite accompagnée. Parfois, il faut prendre le temps. Les enfants ont besoin de temps. Fabienne Quériot en parlait aussi ce matin, du temps. Et tous ces enfants victimes de leurs parents, bien souvent, ils ont besoin de temps pour que le lien se refasse. Et c'est pas toujours le fait d'aller vite que ça va améliorer les choses. Alors, sur cette situation-là, j'ai beaucoup travaillé avec le psychologue qui avait en charge. En fait, c'était toute une fratrie. Hein. Ils étaient trois enfants, mais c'est Enzo qui a été d'abord, c'est lui qui a dénoncé, et pour cause. Hein, je vous ai expliqué comment il était au début, hein, couvert de bleu, de plaies. Donc, c'est Enzo pour qui c'était le plus compliqué, mais c'était aussi compliqué pour ses petits frères et sœurs, surtout qu'il y en avait un qui avait 3 ans, et c'était vraiment trop difficile. Donc, j'avais beaucoup discuter avec le psychologue, et j'avais pu rapporter ça à la cour d'appel à Lyon pour expliquer exactement dans quel état étaient les enfants quand on parlait de leur mère, et notamment Enzo qui tremble énormément et qui a des grosses cris d'angoisse et qui se réveille en hurlant la nuit. Alors après, j'ai Sharon qui est une adolescente victime, elle aussi, de son beau-père qui a été violé et qui est toujours très très en colère après moi. D'abord, elle comprend pas ce que je fais là, hein, pourquoi je la représente. Il y a aucune raison. Elle a sa mère, Sharon. Et c'est pas de la faute de sa mère si elle a été violée. C'est vraiment de la faute de son beau-père. Donc elle me hurle après systématiquement chaque fois que je la vois. Elle se défoule, en fait, Sharon. Hein, elle se défoule. Et c'est toujours la même chose, en fait, ces enfants. C'est toujours à cause d'eux si la fratrie est placée, si la fratrie est exposée, et c'est le quatre coins du département du Rhône. Hein. Ce qu'elle ne sait pas, Sharon, c'est que ses frères et sœurs ont des comportements asexués, c'est-à-dire qu'ils miment régulièrement des scènes de sexe alors qu'ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Et ils embrassent les autres enfants sur la bouche. Enfin, voilà. Et ça, moi, je pouvais pas lui expliquer ça. Mais voilà, c'est compliqué pour. C'était compliqué pour Sharon. De toute façon, c'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est un mot que je répète souvent. Hein, je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est des situations tellement. Je sais pas vous. Mais personnellement, parfois, j'ai du mal à prendre suffisamment de recul. Je suis très en empathie avec ces enfants. Et je pense que c'est normal en même temps, puisque je dois porter leur parole auprès du juge. Alors, Victoria, elle s'en fout, elle secoue la tête, elle a toujours un sourire figé, elle rit en permanence. Et elle me dit que tout va bien. Oui, son père l'a violée, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. L'expert psychologue me dira qu'elle est dans un état de sidération, le pédopsychiatre aussi, et pour cause. Victoria me dit qu'elle a grossi, tout à coup, Victoria me dit, tu sais, j'ai grossi, je suis enceinte de papa. Ah, et c'est important quand même, hein. C'est grave, donc il a fallu, alors vous imaginez bien que la MDR, c'est la Maison du Rhône, c'est le conseil départemental, hein. Le conseil départemental l'a emmené voir le médecin. Voilà, donc Victoria n'est pas enceinte. Mais Victoria, elle donne le sein à son bébé, à son poupon. Victoria, elle a 17 ans. Elle montre aussi sa colère, Victoria. Elle me tend des dessins, elle me dit, tiens, c'est pour toi. En fait, elle a réalisé des dessins sur son père. Tous ces dessins représentent son père écartelé sur une roue, avec un couteau prêt à être lancé. Ou alors, elle a imaginé différentes scènes de torture. Et puis, parfois, je suis désignée par le juge des enfants, mais pas en assistance éducative. Oui, j'ai oublié de vous le dire ça tout à l'heure, mais au pénal. C'est quand il s'agit de mineurs contre mineurs. C'est-à-dire que c'est souvent des fratries. Il s'agit souvent de viols ou d'agressions sexuelles. Donc Élise, elle ne comprend pas pourquoi son frère lui a fait cela. Pendant 3 ans, il l'a forcée à lui faire des fellations. Elle vomit sans cesse et fait des onas à répétition sur le visage. Lorsqu'elle dénonce les faits, sa mère ne veut pas porter plainte et refuse de voir combien elle souffre. Et finalement, Élise, elle finira par se confier à un professionnel. Alors, peu importe le professionnel, hein, ça peut être une professeure, un instituteur, mais aussi parfois quand ils font des loisirs, quand ils ont des loisirs, ça peut être un animateur, voilà. Donc, en fait, ce sont d'autres adultes référents vers qui se tourne l'enfant. Et Louis. Lui aussi, hein, il veut aussi savoir pourquoi Pierre, son grand frère, lui a fait ça. Il l'a volé pendant 3 ans. Sa mère savait pourtant. Il lui a dit, Louis, à sa mère. Elle a juste parlé au grand frère et elle lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais là. Alors Louis, il s'est confié à un professionnel pour être entendu par ses parents. Vous voyez combien tous ces enfants sont traumatisés. Et souvent, ils se sentent tous coupables. Hein. Ils se sentent tous coupables de ce qu'ils ont vécu. Leurs parents n'ont pas su les protéger. Ils ont douté de leurs paroles. Ils n'ont pas su les soutenir. Comment est-ce qu'on retrouve sa dignité lorsqu'on a été victime ? Alors, enfance et partage, les écoutes, et portent leurs paroles devant les différentes juridictions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les aident, si ce n'est par une écoute juste, une justice à l'écoute. Et pour aborder ce sentiment de honte et retrouver sa dignité, 2 actions sont essentielles. La justice, qui condamne les auteurs des faits et permet ainsi la reconnaissance de leur statut de victime, et la reconstruction psychologique par un soin adapté. C'est pas toujours un suivi psy, hein. Ça peut être, maintenant il y a beaucoup d'équithérapie, de l'art-thérapie, ça peut être aussi de la psychomotricité, parce que tous ces enfants-là sont très mal dans leur corps, et parfois on passe d'abord par la connaissance du corps, et ensuite le psychisme peut arriver ensuite. Et ça c'est une devise d'enfance et partage, hein, parce que aider un enfant, c'est sauver un adulte. Alors je ne vais pas le développer maintenant, et puis vous le savez sans doute tous ces mineurs victimes souvent développent des pathologies une fois qu'ils deviennent adultes ou ont des addictologies dont nous parlaient ce matin les intervenantes de ce matin. Je vais peut-être vous parler un petit peu d'enfance et partage maintenant. Bien que en tant qu'administrateur ad hoc, je représente l'association hein, Enfance et Partage. Alors, dans son article premier, l'association Enfance et Partage a pour but de prévenir, d'assister et de défendre les enfants de toute atteinte à la personne humaine, notamment de toutes les formes de mise en péril, de violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles, y compris les atteintes à la vie, et d'apporter des secours immédiats et directs à l'enfant où qu'il se trouve. Et pour atteindre ce but, l'association milite pour l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je ne sais pas si on vous en a parlé ces jours derniers.
Ce matin,
on en a parlé un petit peu, Fabienne Quiroux en a un petit peu parlé. Mais nous, on s'appuie vraiment sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Hein. C'est le premier texte qui est juridiquement contraignant et qui se consacre à l'ensemble des droits fondamentaux de l'enfant. Alors l'association Enfance et Partage existe depuis 40 ans. Nous fêtons nos 40 ans cette année, 1977. On a commencé par l'international, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on fait tant référence à la CID. Elle est composée de 270 bénévoles avec 12 salariés et nous avons 20 comités placés sur le territoire national. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Nous avons, à Enfance et Partage, nous traitons la lutte contre la maltraitance dans sa globalité, avant, pendant, après. Avant, c'est par la prévention précoce, qui se traduit par notre service Allo Parents Bébés, qui s'adresse dès la grossesse jusqu'aux enfants jusqu'à 3 ans. En fait, c'est une plateforme d'écoute tenue par des psychologues, sages-femmes, et les mamans ou les futures mamans qui ont des soucis, bien souvent des soucis, je dirais, concrets, alimentaires, sommeil, rythme de vie, appellent notre numéro vert. Et bien souvent, hélas, ça se termine par la solitude de la maman, parce que devenir maman, c'est pas toujours simple. Je parle des mamans parce qu'on a très peu de papas, mais on a des papas qui appellent et quelques grands-parents. En tout cas, ces mères se sentent bien seules dans une société où tout va très vite, où elles reviennent de la maternité au bout de 2-3 jours, et où elles ne prennent pas le temps d'apprendre à connaître leur enfant. Alors, dans le prolongement, ce service existe depuis 2008. Nous avons un projet 2015-2020, et dans ce projet, nous avons intégré un lieu d'accueil parents-enfants, que vous connaissez sans doute, les LEP. Mais nous avons introduit en plus un juriste et une psychologue pour toutes ces difficultés que peuvent rencontrer les parents, et notamment les parents en conflit. Parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les appels qu'on pouvait avoir dans notre association, on avait de plus en plus de parents en conflit. Et ces parents ne tenaient plus compte de leur enfant. Il n'y avait que leur conflit qui était important. Et on avait fait un congrès qui disait « l'enfant au cœur du conflit parental, de l'enfant malmené à l'enfant maltraité ». Donc on a voulu replacer l'enfant au cœur de la famille, et que ses parents qui sont dans le conflit prennent conscience que leur enfant a besoin encore de ses deux parents, même si ces deux parents ne s'entendent plus. Alors, on fait un accompagnement social et juridique. Je ne sais plus trop où j'en suis. Non, je me trompe. Je me trompe. Alors, voilà, par des sessions de sensibilisation auprès des professionnels, même dans les comités, on fait ces sensibilisations. Nous, à Villefranche, on sensibilise une école d'auxiliaires puéricultrices. Et en fait, on a créé un outil adapté qui s'appelle PRESA, qui est prévenir, repérer, écouter, signaler, agir. Nos bénévoles sont tous formés, je tiens à le signaler. On a d'abord une formation initiale qui est juridique et psychologique, mais ensuite on a des formations adaptées à tous ces protocoles quand on intervient sur des cibles, sur des professionnels ciblés. Et aussi, on a des formations auprès des professionnels de la petite enfance, puisque depuis 2016, nous sommes organismes de formation. Pendant, c'est l'accompagnement des familles et des victimes, puisque notre credo, c'est quand même agir au plus près des mineurs victimes. Alors, grâce à un numéro vert, on a un deuxième numéro vert qui date de 1988, et sur lequel le 119 s'est appuyé, puisque le 119 existe depuis 89. Donc ce numéro vert au siège est tenu aussi par des bénévoles, et on fait beaucoup d'accueil, d'écoute, de soutien, de conseils juridiques. Tous nos conseils sont anonymes et gratuits, et on peut aussi orienter vers d'autres structures. Je pense à la petite Maïlis là, qui a disparu. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent, et nous ne sommes pas, formés. Il existe une autre association qui s'appelle la PEV et qui s'occupe des enfants disparus. Donc parfois les gens viennent nous rencontrer, mais on n'est pas, je dirais, habilité entre guillemets à répondre à leur positionnement. Donc il faut qu'on a créé un réseau, et aussi bien sur le territoire qu'au niveau du siège. Et on travaille énormément en réseau. Et enfin, après, avec l'accompagnement psychologique, puisque nous travaillons avec des psychologues et nous finançons des séances de psy aux enfants victimes de maltraitance. Alors, quel est notre but ? Ben voilà, notre but, hein, c'est d'accompagner les victimes par une écoute bienveillante, sans jugement, sans a priori, donc efficace, avec une solution ciblée pour chaque situation, leur dire que nous sommes à leur écoute encore et encore, et que l'on peut se constituer partie civile à leur côté. C'est aussi pour que la honte change de camp. Voilà. Et je voulais terminer aussi par une belle phrase de notre association qui dit « L'enfance est belle mais fragile, protégeons-la ». Merci.
Merci madame. Alors peut-être souhaitez-vous obtenir une précision, réagir, témoigner, oui ?
Merci pour votre intervention. Par contre, il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, c'est votre ancrage dans la protection de l'enfance. Je ne vous ai pas du tout entendu parler du projet pour l'enfant, enfin de tout ce qui avait été mis en place par la loi de 2007. Et du coup, j'ai du mal à vous repérer, en fait, dans ce dispositif-là, le lien que vous avez avec le conseil départemental et avec, en fait, tous les acteurs, je dirais, de la protection de l'enfance. Donc, il y a un flou pour moi par rapport à ça, première chose. Deuxième chose, je suis interrogatif aussi, alors, par rapport à votre rôle d'administrateur ad hoc. Je suis interrogatif et en même temps, je suis inquiet pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous portez toute seule beaucoup de choses. Et alors, c'est peut-être pas forcément vrai, hein, mais à vous entendre comme ça, j'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses toute seule. Et je suis donc inquiet pour vous. Je me dis à quel moment.
Je suis gentil, merci.
Ah ben, je vous prie.
Je disais que j'avais eu la même impression à vous écouter. C'est très touchant, c'est très émouvant. Et dans votre ton, on sent le poids que vous portez de la souffrance de ces enfants. Et vous en portez une partie. Certainement pour les soulager un petit peu et j'ai envie de vous dire bravo parce que heureusement qu'il y a des gens comme vous quoi. Mais ça va être très très difficile.
Alors sur la première partie de la question qui était relatif
à la protection
au lien avec la protection
vous voulez parler de d'enfance et partage quand vous me posez la question, quel est le lien avec la protection de l'enfance? On n'a pas de lien. L'association Enfance et Partage, elle a été créée en 1977. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une association privée puisque on ne dépend pas de l'État. On fonctionne avec des donateurs, des fonds privés, des mécènes. On a été la première association à se constituer partie civile dans le décès d'une enfant. En 1982.
Bon, ma question n'était pas celle-là, en fait.
Pardon.
Non, parce que, alors, je vais peut-être mal l'exprimer, hein, mais c'était surtout par rapport au fait que, quand on parle que l'enfant, la famille sont au cœur du dispositif, on a le projet pour l'enfant, on a toutes ces choses-là qui sont mises en place, en fait, par la loi de 2007. Et du coup, votre intervention, je pense, est en parallèle par rapport à tout ce dispositif-là, je ne vois pas le lien avec ce qui est mis en place par rapport à la protection de l'enfance, d'une part sur le repérage de l'enfance maltraitée et en danger, et de ce que vous faites, vous aussi, de votre côté, sur l'enfance maltraitée et en danger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le pendant qui est à côté. J'ai l'impression que vous marchez en parallèle. C'est une interrogation, hein. C'est peut-être pas forcément vrai.
Alors, en tant qu'administrateur ad hoc, je marche en parallèle, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'essaye de...
Sans doute, oui. Sans doute, oui.
Oui, effectivement. J'ai pas le même rôle que les travailleurs sociaux. Au départ, ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, on se connaît bien. Le TGI de Villefranche, c'est une petite juridiction. Donc, on se connaît tous. Au début, les travailleurs sociaux ne voulaient pas me parler. ils me disaient, mais le secret professionnel, j'ai pas le droit de vous... Alors, j'apportais ma petite désignation avec la signature du procureur de la République ou du juge des enfants. C'est vrai que les travailleurs sociaux connaissent pas trop l'administrateur ad hoc, je pense. Et s'il existe, c'est qu'il a son utilité, en tout cas. Et sans doute que c'est vrai, je suis un peu seule dans cette mission-là, oui, c'est possible.
D'où l'intérêt peut-être de faire connaissance un peu plus. Alors, je vous en prie, madame.
Oui, moi j'aurais deux questions, enfin deux remarques. La question de la honte qui doit changer de camp. On a parlé de la honte ces deux jours. et je voudrais savoir dans quel camp elle doit aller. Si c'est celui des parents, ça pose des questions. Enfin, je pense que c'est un vrai débat, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est la question du fait d'être victime. C'est important qu'une victime soit reconnue en tant que victime, mais on a pu entendre aussi que ce n'était pas quelque chose qui aidait à se construire. Donc comment on peut faire pour aider ces enfants qui sont victimes à dépasser ce statut de victime pour être acteur? Voilà. Moi, c'est les deux questions que j'aurais, parce que l'idée de défendre l'enfant, on est tous des professionnels qui travaillons ces questions-là tous les jours dans le cadre de notre travail avec les familles. Ceci dit, on ne peut pas enlever l'enfant de sa famille comme ça. Et que fait-on avec ses parents qui sont maltraitants? Vous avez parlé de beaucoup de maltraitance physique, de viol, voilà. Il y a d'autres types de maltraitance. Que fait-on avec ces parents-là? Et est-ce que c'est dans leur camp que la honte doit aller? Voilà. Moi, c'est une des questions.
Je vous en prie.
Ah, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça qui fait le débat. Oui, alors, tous les parents... la honte qui doit changer de camp, oui. Enfin, moi, je suis dans le tribunal... Je suis dans le tribunal correctionnel, je suis aux assises. Je veux dire, ces enfants-là, c'est douloureux ce qu'ils vivent. Hein. Et ce qu'ils ont vécu de leur part, de leurs parents. On parle bien de parents. On ne parle pas du voisin d'à côté. Moi, je suis là quand le parent est l'auteur. Donc, j'entends bien. Oui, c'est vrai que c'est avec vous. Tout à l'heure, on a discuté à la cantine. Non, mais j'entends bien ce que vous dites. De toute façon, ces enfants qui ont été victimes de leurs parents, il faut bien vous dire qu'ils aiment leurs parents. Bien sûr qu'ils les aiment. C'est sûr qu'ils les aiment, c'est évident. Mais ils souffrent d'autant plus, d'ailleurs, parce qu'ils aiment leurs parents. Et ils comprennent pas pourquoi les parents ont fait ça. Et peut-être que le fait de dire que la honte doit changer de camp, ça vous choque. Mais eux, ils ont honte, ils sont petits, ils sont mineurs, ils sont fragiles. Pourquoi est-ce que la honte ne changerait pas de camp? Pourquoi est-ce que les parents ne devraient pas avoir honte de ce qu'ils ont fait subir à leurs enfants?
Parce que la honte des parents ne soignera pas les enfants.
Ah bah non, bah bien sûr que non. Ça, c'est pas le but recherché. C'est pas le but recherché.
Une intervention encore et puis on va clore cette première séquence de l'après-midi. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir?
Alors, je vais me présenter. Je suis déléguée sur la région de la Moselle. Je vais vous parler juste d'un cas très concret, parce que c'est ce qui me parle. Je rencontre un jour une maman qui a 4 enfants et qui est condamnée pour l'un de ses 4 enfants. L'ensemble de ses prestations est versé au service. Elle a été condamnée à une amende et elle me demande à moi de payer cette amende avec les prestations familiales de ses enfants. Donc je me retrouve face à cette demande dans mon accompagnement. Je ne sais pas comment y répondre, je dois réfléchir. Voilà.
Mais c'est une amende, c'est pas des dommages et intérêts. Vous me parlez de...
Oui, de dommages et intérêts, pardon.
Ah oui, d'accord, des dommages et intérêts.
Voilà. Elle est condamnée.
Alors, moi, je peux vous dire que pour ce qui concerne les dommages et intérêts, j'ai un protocole très précis. Donc, j'ai jamais eu affaire à ça. C'est-à-dire que je saisis, mais je ne vais pas vous parler de ça, je saisis soit le SARVI, qui est le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, soit la CIVI, quand il s'agit d'une somme importante et qu'il s'agit de viol, ou sinon le SARVI pour les maltraitances physiques et en dessous de 3 000 euros de dommages et intérêts. Une fois que je les ai saisis, que je leur donne le jugement, un extrait de casier, un extrait de naissance, excusez-moi, etc. J'ai un dossier complet à faire. Eux me renvoient un chèque au nom de l'enfant. Ce chèque au nom de l'enfant, je saisis le juge des tutelles mineures qui désigne l'UDAF, parce que c'est un partenariat que j'ai passé avec l'UDAF du Rhône, qui désigne l'UDAF qui place et gère les fonds. Et après, c'est le SARVI ou la CIVI qui se retourne contre l'auteur. Moi, je voilà. Donc, et après, je ne sais pas comment se débrouille le Sarvi ou la Sivi à ce niveau-là. Donc, du coup, je ne sais pas trop répondre à votre question.
La question est quand même particulière. Je m'interroge même sur le fait que, comme délégué aux prestations familiales, ça la pose. Si cette amende doit être payée par l'argent qui doit être exclusivement utilisé aux besoins des enfants, c'est la double peine, quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc la maman se débrouille, mais c'est certainement pas les prestations familiales
qui peuvent payer
les dommages et intérêts du délit qu'elle a commis sur son enfant. Quoi.
Merci madame, on voit qu'effectivement ça peut créer du débat. Mais après tout, des démarches peuvent être vécues comme parallèles, peut-être même rivales ou concurrentes. Et entrer en dialogue, ça peut être intéressant, c'est un peu ce qui se passe sans doute. Merci.
Merci.
Merci à vous.